au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est un roman étrange que je vous propose de découvrir aujourd'hui, intitulé « Le télescope » et publié dans une maison d'édition modeste par la taille, mais rayonnante par ses choix littéraires, Rive-Neuve Édition. Et l'auteur de ce roman, « Le télescope », n'est autre que notre collaborateur François-Pierre Nizeri, qui est tout à la fois romancier, peintre, poète. Il a consacré un essai à André Chanson de l'Académie française intitulé « Le minéral et la fleur ». Et je signale d'ailleurs que Canal Académie propose deux émissions avec François-Pierre Nizeri sur cet écrivain cévenol que l'on lit toujours avec émotion. François-Pierre Nizeri, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
C'est très gentil. Je disais que votre roman est étrange, à la fois par le lieu, par les personnages, par le sujet. Le lieu, c'est la Bretagne, mais pas n'importe quelle Bretagne. Alors, c'est quelle Bretagne vous nous avez décrit parfaitement, d'ailleurs, dans ce roman ?
Oh, bah, écoutez, c'est une Bretagne d'abord totalement imaginaire, puisqu'on est dans l'imaginaire pur là-dedans.
Absolument.
Hein, dans ce roman.
L'île dont on parle, elle n'existe pas.
Elle n'existe absolument pas. Je l'ai inventée, je l'imagine au large de la côte sud de la Bretagne, dans le Morbihan, là où j'habite, hein, effectivement, parce que, bon, c'est pas très loin. Mais elle n'existe pas. Et alors, en face, il y a une ville qui n'existe pas non plus, mais qu'on pourrait imaginer comme étant, je ne sais pas, moi, l'Orient, par exemple, je ne sais pas.
Mais il y a aussi des landes complètement désertes. Donc, c'est quand même la Bretagne très traditionnelle telle qu'elle est dans notre imaginaire.
Oh ben la Bretagne, c'est la lande. La Bretagne, c'est, je dirais, le désert. Le premier des déserts que j'évoque dans ce livre, puisqu'il y a plusieurs déserts.
Il y a plusieurs déserts.
Vous savez que le mot désert est un mot qui m'obsède. Et il m'obsède pourquoi ? Parce que c'est la traduction française de mon nom breton.
Nizeri.
Nizeri, ça veut dire désert.
Ah, ben c'est pour ça. Alors, il n'y a pas de mystère.
Vous pouvez imaginer que ça marque.
Voilà. Donc il y aura le désert breton, après il y aura le désert cévenol, qui est une autre forme de
Exactement. Désert,
et puis des déserts plus sablonneux, si je puis dire.
Voilà. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est justement de faire se confronter différentes formes de déserts. Il y a dans ce livre, il n'y a pas seulement la Bretagne, il y a beaucoup de lieux, et il y a beaucoup de déserts qui s'affrontent, y compris des déserts qui sont radicalement différents, comme par exemple le désert ou les déserts du héros principal, enfin du personnage principal, Paolo, qui est à la fois breton, donc amoureux de la lande, et toscan. Mais la Toscane, une Toscane un peu particulière, c'est la Toscane des environs de Volterra. Et les environs de Volterra, ce n'est pas du tout la Toscane qu'on voit sur les cartes postales. Ce sont des collines absolument arides, absolument vierges, au sommet desquels on trouve parfois comme ça quelques petites fermes, petites maisons, quelques cyprès, puis c'est tout. Un peu comme une toute petite touffe de cheveux au-dessus d'un crâne chauve, vous savez. Je n'ose pas dire que c'est des cheveux raides parce que c'est des cyprès, mais bon,
presque.
Je suis tenté de le dire.
Il y a aussi dans ce lieu quelque chose qui nous inquiète. C'est pour ça que je dis que votre roman donne tout de suite une atmosphère étrange. C'est un énorme cromlech avec une mâchoire géante. Alors comment on a imaginé ça quand on est écrivain ?
Ah bah écoutez, là, pour le coup, il y a un cromlech, d'ailleurs que j'ai évoqué également dans un autre roman qui est Guy et Venette, un cromlech qui existe réellement et qui est celui d'Erlanic dans le golfe du Morbihan. Et ce cromlech, qui est à moitié submergé par la mer, souvent, surtout à marée haute d'ailleurs, c'est un cromlech qui absolument ressemble à une mâchoire. Et alors là, c'est l'imaginaire qui parle. On s'imagine que c'est effectivement une mâchoire et que cette mâchoire va finalement vous dévorer, à moins que tout simplement que ce soit une sorte de complice.
Ah.
Ce qui, en l'occurrence, est peut-être le cas.
Pour ça, faudrait vous lire.
Surtout,
va falloir vous lire.
Alors, le complice d'un goéland.
Aussi, oui, le complice d'un goéland, car ce goéland, d'abord, il a un nom, ce goéland, Antoine, il s'appelle, ce qui est d'ailleurs un ermite du désert, grand Antoine.
Absolument.
Hein. Mais alors, ce goéland est presque un personnage dans votre roman.
Ah, c'est un personnage.
C'est un personnage.
Je dirais presque que c'est le personnage du roman. C'est pas le personnage qu'on appelle logiquement le personnage principal, mais c'est pour moi le personnage du roman qui joue le rôle en quelque sorte d'une sorte de vigie.
Il est toujours
et qui est le sage, qui est le sage et qui ramène de temps en temps le personnage principal qui est un peu fou, on en parlera peut-être, qui est un peu fou, même carrément parfois. Ce goéland lui parle et le ramène un peu à la réalité.
Au fond, c'est lui qui a les pieds sur la terre.
Voilà, exactement.
Si on peut dire. Alors, ce qui donne aussi une atmosphère très étrange à votre roman, Le Télescope, François-Pierre Nigri, c'est la maison. Alors, la maison est parfaitement décrite. Elle est évidemment fabriquée en pierre grise avec des volets bleus. C'est un ancien couvent de Templiers. Et je vais lire ce petit passage où vous décrivez la maison. Vous me le permettez ?
Bien sûr.
Le personnage principal s'appelle donc Paolo. Paolo venait souvent, quotidiennement, consoler ses vieux murs, soigner leurs blessures, gratter leurs escarres, caresser les flétrissures laissées par des années de résistance au vent du large. Régulièrement, il revêtait ses volets d'une nouvelle couche de bleu de belle allure, aussi fort qu'un bleu guerrier de la lointaine Prusse qui aurait troqué son armure princière contre une bure d'indigotier, modeste mais prête à tous les affrontements du sort et du souffle des rafales. Même bichonné, même entretenu, même amoureusement protégé des agressions extérieures, cette maison demeurait un mystère que ni Paolo ni ses parents n'avaient pu éclaircir. Comment était-elle arrivée dans ce lieu de non-vie, où même le végétal avait du mal à régner ? Comment, quand et pourquoi des hommes, sans doute un peu fous, avaient-ils pu déplacer, ériger en mur toutes ces vieilles pierres qui n'en pouvaient plus de résister au temps, fatiguées de tant d'acharnement à leur survie ? Il se disait parfois, Paolo l'avait entendu à la ville lorsque ses parents avaient acheté l'île, que les pierres n'avaient jamais été transportées, qu'elles étaient là depuis des siècles et des siècles, vestiges d'un très ancien couvent des Templiers à demi englouti par la mer. Alors on voit tout de suite une atmosphère étrange par ce passage, François-Pierre Nigri, dans votre roman. Et non moins étrange, les personnages. Alors Paolo, qui d'abord n'a pas un prénom breton. Alors pourquoi n'a-t-il pas un prénom breton ?
Parce qu'il est quand même breton, mais il est aussi toscan. C'est un mélange. Il porte en lui déjà une forme d'antagonisme, parce que ce sont quand même la Bretagne et la Toscane, deux pays qui sont radicalement différents. Mais en même temps, ça lui donne une cohérence, en quelque sorte, puisque chacun de ces déserts, le désert breton d'une part et le désert toscan d'autre part, sont des déserts où on aperçoit l'infini de façon, je dirais, horizontale. Par contre, et j'anticipe un petit peu peut-être sur notre discussion, son épouse, Pauline.
J'allais vous faire parler d'elle.
Pauline, elle n'a pas deux origines, elle n'a pas deux racines, elle n'en a qu'une. Mais quelle racine ? Puisqu'elle est d'un autre désert, le désert des Cévennes. Et le désert des Cévennes, ce n'est pas du tout un désert horizontal. C'est un désert protestant, d'abord, d'une part, donc un désert de résistance. Et c'est un désert vertical. Ce qu'elle voit, Pauline, devant sa fenêtre, quand elle va chez elle, là-bas, chez ses parents, c'est une paroi rocheuse. C'est l'Aigoual. Alors évidemment, je me réfère en l'occurrence à mon ancienne passion pour les écrits d'André Chanson. Mais c'est vrai que ça m'a fasciné et que la différence, la rencontre, le choc même, je dirais, entre ces deux types de déserts, me paraît quelque chose d'intéressant à souligner. Et cette femme qui est là, qui a besoin d'un mur, qui peint d'ailleurs, qui est peintre, qui peint des murs, qui peint des matières abstraites qu'elle appelle des murs. Cette femme qui a besoin de murs est un peu désemparée dans une île où elle a en face d'elle simplement du vide.
Désemparée est le moins qu'on puisse dire, car vous employez pour elle l'expression, entre guillemets, « sa haine de l'horizon ». Donc une femme qui a besoin d'avoir pas d'horizon, mais au contraire un clos qui la borde, un enclos qui la rassure.
Un interlocuteur, en quelque sorte. Un interlocuteur vertical, un interlocuteur qui soit un mur. Mais en même temps, l'idée du mur, elle est là dans tout le livre, puisque ce que je voulais dire également, c'est qu'entre Paolo et Pauline, qui est un couple qui aspire à la fusion, qui aspire à l'harmonie complète, entre eux, il y a un mur Il y a ce mur-là, justement. Mais ce mur est peut-être le meilleur des ciments.
Qui sait ? Alors, ce couple, justement, ils ont choisi de s'isoler dans cette île. Est-ce qu'ils ont subi une sorte de folie, entre guillemets, ou est-ce qu'ils accèdent à une sorte de sagesse ?
Un peu des deux, parce que la sagesse, si j'ose l'appeler ainsi, c'était que Paolo, puisque c'est en fait lui qui prend la décision d'aller dans cette île, a une réaction à un certain moment de rejet. Et le rejet, parfois, peut être une réaction de sagesse. Quand on est face à un milieu qui finit par vous agresser, on vit à Paris, on est éditeur, et puis ça ne marche pas, on se fait manger par un gros éditeur. La grenouille, hein, c'est la grenouille et le bœuf. Et donc cet éditeur vous mange, vous disparaissez et vous avez envie de fuir. Est-ce que c'est une réaction de sagesse ou une réaction de folie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une sorte de retraite, mais une retraite qui est un retrait. Un retrait du monde. Parfois, le retrait du monde, il est nécessaire. Mais il faut savoir jusqu'où il va.
François-Pierre Nizeri, votre roman s'intitule « Le télescope ». Alors, quel est le rôle de ce télescope ? Pourquoi le personnage a-t-il un télescope ? Évidemment, on pense qu'il va observer les étoiles, mais il n'observe pas que cela.
Voilà. Il observait les étoiles. Parce que, dès le départ, c'est un personnage qui avait envie d'aller ailleurs, très loin, au-delà, au-delà du visible, en quelque sorte. Et là, il se trouve dans cette île, et tout d'un coup... Il abaisse son télescope et il veut quoi ? Il veut simplement observer et regarder la ville en face, sur la côte.
Alors là, on ne va pas dire tout ce qui s'y passe, parce que sinon on dévoilerait tout le roman. Mais effectivement, ça occupe une partie de son temps d'observer ce qui se passe en ville.
Mais l'idée, si vous voulez, c'était qu'à travers cette espèce de passion qui lui vient soudainement comme ça, de regarder une ville très loin à travers un télescope... Ça finit par être quelque chose, un processus de dévoiement, en quelque sorte. Un paroxysme du désir qui se transforme en quelque chose qui va le détruire progressivement parce que ces images, ce qu'il regarde, ce qu'il voit, ce ne sont plus que des parts de réel.
Et c'est donc, très virtuel, au fond.
Ça devient du virtuel. Voilà. Ça devient du virtuel. Et c'est le comble de ce qu'on peut appeler l'image stéréotypée. Et ce que j'ai voulu dire... dans ce roman, finalement, puisque j'avais envie de dire quelque chose de ce genre-là. Un roman, ça dit des choses aussi. Et j'avais envie de dire, attention, justement, aux stéréotypes, parce que ça nous guette tous. Nous sommes tous tentés, à un moment ou à un autre, de prendre un télescope et d'aller voir très loin. Mais quand on va voir très loin, je ne sais pas moi, en Chine, par exemple, il y a peut-être des télescopes qui vont jusqu'en Chine, des télescopes qui vont de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit des images partielles. Attention aux images partielles. Attention aux stéréotypes.
Alors François-Pierre Nizeri, c'est vrai que votre roman est un vrai roman avec des personnages, une ambiance, une intrigue. Donc vous avez bien réussi à bâtir un vrai roman. Mais en même temps, c'est un roman qui invite à penser. Et en effet, vous le dites, vous avez voulu quand même que le lecteur pense par lui-même. Est-ce que c'est le rôle de la littérature, à votre avis ?
Eh bien, oui, absolument oui. 100 fois oui. La littérature est, à mon avis, le meilleur porteur de pensée. Et je sais bien qu'actuellement, aujourd'hui, le mot pensée est peut-être un mot grossier parfois. Comme la poésie, vous savez.
Il fait peur.
La poésie fait peur aussi. Il faut faire attention aux mots. Oh la poésie, oh là là, vous allez dans le rêve. Là, attention, oh là là, où allez-vous ? Et la pensée, c'est un peu pareil. Évitons de penser parce que d'abord, vous savez, on qualifie de pensée aujourd'hui tout ce qui va au-delà du concret. C'est-à-dire, dès lors que vous commencez à exprimer des idées un tout petit peu abstraites, vous êtes qualifié de « penseur », entre guillemets. Ça peut aller très loin. Et moi, je considère encore une fois que la littérature et le roman, et même la poésie, toute forme littéraire, c'est quelque chose qui permet également de penser. Et il ne faut pas se cacher derrière l'espèce d'argument qui voudrait exclure la pensée de la littérature. Moi, je ne vous cache pas que j'ai été très frappé récemment par la lecture d'un entretien d'un académicien très célèbre, Jean Dutour, avec le magazine des livres. Un entretien dans lequel Jean Dutour fustigeait en quelque sorte les écrivains qui cherchent quelque chose. Je cite à peu près de mémoire. Qui cherchent quelque chose d'incompatible avec la littérature, qui est d'être un maître à penser. Alors, moi, je dis, mais à ce moment-là, ça veut dire que la pensée est incompatible avec la littérature. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la littérature à ce moment-là ? Et est-ce que ça veut dire qu'il faut carrément s'interdire de penser. Moi, je m'oppose à cela véritablement. Je suis 100% en désaccord avec cela. Et d'ailleurs, là, chez mon éditeur Rive-Neuve Édition, la collection dans laquelle s'insèrent mes trois livres, qu'ils inaugurent en quelque sorte, est une collection dans laquelle on dit clairement que les écrivains qui y participent sont des écrivains qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans la poésie, qui sont dans le roman, mais qui en même temps ont le droit absolu de penser, de s'arrêter sur leur chemin pour penser et pour transmettre cette pensée à leurs lecteurs, et leurs lecteurs en font ce qu'ils veulent.
Voilà, une déclaration ferme du rôle de la littérature par François-Pierre Nusret.
Absolument.
Vous parliez de vos trois romans, et en effet, j'allais le dire, Le Télescope, donc le roman dont nous venons de parler, est accompagné de la réédition de deux autres romans, Le Manteau Blanc de Berlaymont et Le Guerrier Vénette. Et tous les trois sont publiés par Rive-Neuve Édition. Et je rappelle que l'ouvrage de François-Pierre Nusret, Le Minéral et la Fleur, consacré à André Chanson de l'Académie française, est publié chez l'éditeur Bernard Gilson à Bruxelles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.